Bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode 33 de la saison 3 de Vue du Banc. On se retrouve cette semaine pour faire un petit bilan des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, puisqu'il y a eu des surprises et qu'on a vu des matchs beaucoup plus serrés et beaucoup plus de suspense qu'on pouvait prévoir. Je suis aujourd'hui accompagné de Florent Tonuti. Salut Florent.
Salut.
Ainsi que de Christophe Cuchely.
Bonjour Raphaël.
Christophe Cuchely en forme puisqu'il a passé la nuit à revoir à peu près tous les quarts de finale de Ligue des Champions qui ont été disputés cette semaine. Ça va Christophe? Tu t'en
fatigué
sors?
Fatigué du coup, mais... J'ai l'impression de rêver de déplacements sans ballon et des choses comme ça, c'est un peu compliqué.
On rappelle qu'on est sponsorisé désormais par PMU.fr qui nous accompagne depuis l'épisode 32, qui nous permet de faire plus de sauce, qui nous permettra de faire pendant la Coupe du Monde une quasi quotidienne. Voilà, et puis de notre côté on parlera un peu de PMU pendant le podcast, on donnera nos paris. Alors on a été un peu catastrophique sur le premier épisode,
très,
Florent.
Très catastrophique.
Puisqu'on fait un 0 sur 4. On essaiera de se rattraper cette semaine, ce jeudi, avec un peu plus de contenu de qualité et surtout de paris, espérons, efficaces. On est aussi désormais sur Deezer, ça c'est aussi la bonne nouvelle Florent, parce que désormais on est aussi sur cette plateforme et on espère être sur d'autres bientôt. L'objectif c'est d'être le présent le plus possible pour que tout le monde puisse nous écouter d'un peu partout. Passons à la Ligue des Champions avec des matchs, on a dit, des matchs fous, des matchs inattendus. On va commencer par le match le plus récent et le plus disputé, c'était mercredi soir, la Juve contre le Real Madrid. T'as regardé ça, Christophe, c'était à Bernabeu. Alors Bernabeu est connu pour des matchs difficiles. On se rappelle il y a quelques années un quasi-retour de Dortmund qui avait failli éliminer le Real Madrid au match retour, mais cette fois-ci le Real s'en est sorti malgré une performance collective un peu comme à l'aller, décevante, insuffisante, mais qui cette fois a été bien plus souvent sanctionnée par la Juventus.
Ouais, c'est ça, c'est en fait le fait que la Juve marque sur ses occasions, même si, tu vois, j'ai lu ça et là que la Juve était très réaliste. Non, pas forcément, parce que quand tu termines avec 2,75 d'expected goals et que tu rates quand même plusieurs grosses situations, ça aurait pu être pire, entre guillemets, si la Juve avait tout converti, surtout que le Real n'a pas mis les siennes. Quand tu regardes en première période, le Real a quasiment autant de situations dangereuses que la Juventus, même si le Real est déséquilibré. Mais t'as Isco qui marque un but qui est refusé pour hors-jeu, il y a Bale là, qui a son face-à-face qui ensuite est enchaîné d'une talonnade qui convertit pas. Donc au final, la première période, la Juve était bien mieux en place que le Real, sauf que le Real, malgré tout, et comme très souvent, peu importe la qualité du collectif, arrivait à se procurer des situations. Mais donc j'ai revu plusieurs fois le match. Ce qui m'avait pas forcément sauté aux yeux sur le premier visionnage, c'est vraiment les positionnements des joueurs du Real étaient vraiment très bizarres. Avec à la fois Kroos qui était ultra écarté côté gauche, il était limite dans une position un peu déliée gauche, avec Modric qui était aussi assez écarté sur la droite, donc du coup le milieu était totalement désert. Et aussi le fait que souvent Isco reculait pour prendre la balle sur la première relance, circulait en position de numéro 6 à la Busquets, tout ça. Donc pourquoi pas si tu veux fluidifier ta relance. Sauf que du coup, tu avais Casemiro qui intervertissait, qui changeait de place avec lui et qui passait limite en numéro 10. Et du coup, alors ça peut s'expliquer si tu veux avoir des passes fluides, des bonnes transmissions, etc. Sauf que dès qu'il y avait la moindre passe ratée, bah, t'avais 6 ou 7 joueurs devant le ballon et très peu de... Enfin, Casemiro, il est intéressant voilà, pour les récupérer. Donc là, il était 15 mètres devant le ballon. Donc si Isco ratait sa passe, bah, tout de suite, t'avais une transition très dangereuse pour la Juventus. Et globalement, je trouvais que les lignes du Real étaient inutilement étirées sans que la Juve ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc déjà là, tu te mettais rapidement en danger un peu tout seul.
Alors, petit rappel avant qu'on développe encore plus. Le Real était en losange, Christophe, avec cette fois Ronaldo et Bale devant. La nouveauté, c'était Vallejo en défense centrale puisque Ramos... était suspendu, et puis du côté de la Juve, on a vu ce retour de Pjanic, surtout au milieu de terrain, qui a fait beaucoup de bien, le retour de Mandzukic sur l'aile gauche. Il y a eu des changements d'hommes par rapport au match aller qui ont changé beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai, et puis l'intégration de Matuidi au milieu, qui même si il n'a pas tout bien fait, rien que le fait qu'il ait beaucoup d'activité, qu'il court beaucoup en comparaison de Kroos et Modric qui en avait assez peu, et Casemiro qui a fait à peu près n'importe quoi sur la mi-temps où il a joué, ça a permis un petit peu de faire des fausses pistes et d'occuper le milieu pour que Pjanic, qui était vraiment le meneur de jeu et le joueur par qui tout le monde passait pour construire les attaques côté Juve, ça a permis à Pjanic d'avoir du temps et de pouvoir poser le jeu sans être forcément pressé, en sachant que dans tous les cas, le pressing du Real ne s'est pas amélioré sur ce match-là et que ça reste un petit peu bizarre la manière dont le Real va chercher son adversaire.
Alors ce qu'on a vu Florent et ce dont t'as parlé Christophe concernant Casemiro, c'est je trouve que, enfin je l'avais déjà remarqué au Real, alors pas forcément la permutation avec Isco, mais le fait qu'en possession du ballon, Casemiro aille plus haut et laisse la responsabilité de relancer à Kroos et Modric, c'est aussi parce que beaucoup d'équipes ont identifié la faiblesse de Casemiro, qui est la résistance au pressing. Il avait déjà perdu des ballons à l'aller contre la Juve comme ça, et c'est un problème, comme l'a dit en effet Christophe, parce que du coup ça te met ton meilleur récupérateur devant le ballon, et lorsque la première relance n'est pas réussie, bah du coup il est plus pertinent parce qu'il est hors de l'action.
Oui, enfin, voilà, ce problème de Casemiro, on le connaît, mais il y a eu aussi un autre problème qu'on a vu avec et sans le ballon. Là, je vais en parler quand le Real avait le ballon, c'est l'absence de Ramos. Parce que très souvent, le Real est une équipe qui joue avec des défenseurs qui sont quand même assez étirés, parce qu'on en avait assez parlé, quand ils sont pressés, bah, c'est très dur de les presser parce que... Kroos ou Modric peut de suite lâcher une transversale de 30-40 mètres, et puis voilà, le pressing est terminé et t'es dans un espace libre. Et tout ça parce que t'as soit d'un côté Ramos ou Varane qui sont assez, on va dire, sereins techniquement pour être à la réception de ce genre de changement de jeu. Et là, moi, il y a plusieurs fois dans le match où le Real prend la pression sur un côté et où j'ai l'impression que justement, le fait qu'il n'y ait pas Ramos qui soit libre côté opposé, puisque par exemple ça prend la pression côté Varane ou Modric, et bien on fait pas ce renversement parce qu'on n'est pas sûr de Vallejo balle au pied de l'autre côté, et plusieurs fois le Real a rendu des ballons que normalement il ne rendait pas parce que voilà, il n'avait pas ce joueur sûr techniquement sur lequel s'appuyer et sur lequel on peut faire un changement de jeu quoi. Et en face de ça, la Juve a assez bien joué parce que avec leur ligne de 5, ils avaient toujours un joueur en capacité de sortir jusqu'aux défenseurs sur ce genre de long ballon, que ce soit Douglas Costa d'un côté ou Mandzukic de l'autre, voire Matuidi. Ils n'avaient pas peur de faire ce genre d'effort et du coup de mettre le Real sur le reculoir.
Il y a un truc qu'on avait vu à l'aller et qui a été encore plus criant au retour, Christophe, ça a été le manque d'équilibre au milieu côté Real Madrid, et surtout l'occupation des espaces sans le ballon, avec un milieu en losange qui a été écartelé par les déplacements de la Juve et par la présence de Douglas Costa d'un côté et de Mandzukic de l'autre au second poteau, avec un mismatch contre Carvajal. C'est un plan qui n'est pas forcément très original et qui n'est pas très complexe de la part de la Juve, mais qui a appuyé sur les faiblesses du Real Madrid.
Bah déjà, je trouvais que le losange était déjà assez écartelé de base, sans forcément que la Juve ait à faire grand-chose. Il y a même des séquences où je me dis, mais ils sont repassés à plat ou quoi? Parce que le positionnement de Kroos, etc., il était vraiment très proche de Marcelo. Finalement, non. Mais c'est vrai que déjà de base, le Real, parfois en possession, vraiment désertait l'entrejeu, ce qui était ouais, petit peu bizarre. Et qu'en plus, Isco,
avec une possession en U dont on a déjà voilà, parlé plusieurs fois cette saison.
Qui est l'une des choses les plus frustrantes dans le foot. Mais c'est vrai qu'en plus, la Juve a bien... Bon, déjà, comme tu l'as dit, il y a Douglas Costa qui est pour moi le seul joueur qui individuellement a le niveau des joueurs offensifs du camp d'en face qui est vraiment capable, contrairement aux autres qui doivent en gros, tu dois faire soit des redoublements de passes, des choses comme ça. Douglas Costa, il peut prendre la balle et courir tout droit et mettre en danger l'adversaire, donc ça c'est sûr que ça a apporté une variété bienvenue.
Et il s'est rattrapé de son match aller où son apport avait été déficient.
Ouais, où c'était compliqué, ouais. Et en plus, je veux dire, le Real était... Enfin, le bloc, en fait, dès que tu faisais un renversement de jeu, le bloc était hyper long à coulisser, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de faire une demi-heure d'un côté, transversal, repartir de l'autre, puis transversal, partir du premier côté. En gros, tu avais juste à avoir Douglas Costa qui percute d'un côté. Tu remets la balle au milieu, tu la remets côté droit. Du coup, le bloc du Real aura un petit temps de retard. Et du coup, ça permettait d'avoir le temps de centrer, de dédoubler pour Lichtsteiner qui lance au centre. Et effectivement, le duel de la tête Mandzukic-Carvajal, t'étais sûr que Mandzukic allait quasiment tout le temps gagner. Et en fait, c'est un plan de jeu qui a rien d'extraordinaire finalement, de te dire, bon, on va... Le but, c'est de balancer des centres pour un joueur qui va forcément gagner tous ses duels aériens. Surtout en plus, sans Ramos, du coup, si tu les balances aussi dans la zone de Valero, tu peux peut-être réussir à les gagner. Donc comment est-ce que je fais pour balancer des centres? Il faut que le joueur lancé ait un peu d'espace. Donc du coup, tu essayes que le bloc adverse ait un petit temps de retard et que Marcelo soit pas en position. Et c'est vrai que pour le coup, ça a vraiment super bien marché. Alors je pense même qu'ils auraient presque pu balancer plus de centres. Il y a des fois, ça a tenté de varier, de passer par le milieu, ce qui lui a apporté une variété. Mais du coup, je pense que limite en balançant des centres tout le match, t'aurais même pu avoir sans doute plus d'occasions. Après, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en fait, si on pourrait faire, je pense, une heure sur les faiblesses du Real, et c'est généralement des choses connues, hein, même le pressing, par exemple, où des fois tu as Ronaldo qui allait courir tout seul et tu n'avais personne 20 mètres derrière lui. Du coup, le semblant de pressing n'avait pas grand intérêt, ou alors tu avais juste 2-3 premiers joueurs qui allaient au pressing, mais la ligne était cassée super facilement. Et n'empêche que si le Real convertit ses occasions, ça peut faire deux partout à la mi-temps, et il n'y a jamais le côté folie, et le match de la Juve est finalement pas tellement mis en exergue. Donc, le Real a toujours les mêmes faiblesses qu'on connaît, et la Juve a bien su les exploiter. N'empêche qu'il faut quand même que sur ce match-là, tu sois plus réaliste que l'adversaire pour pouvoir avoir une chance de remonter, quoi.
Alors Florent, on a parlé de Douglas Costa en termes d'apport dans le déséquilibre. En termes d'apport dans l'équilibre pour la Juve, il y a eu une grosse rentrée de Pjanic qui pouvait pas être là pour le match aller et qui a apporté tout cet équilibre et surtout cette gestion du ballon à la récupération. Là où la Juve n'arrivait pas vraiment à repartir proprement sur les contre-attaques à l'aller, sur le coup, ils avaient vraiment quelqu'un qui était capable à la fois d'identifier le temps fort, le temps faible, l'espace libre et de jouer sur le joueur le plus libre et le plus avancé, celui qui avait le plus d'espace à attaquer. Et la relation Pjanic-Douglas Costa était limite la relation principale et indispensable pour que la Juve puisse sortir.
Oui, et puis tu avais aussi un joueur avec Pjanic, tu récupères un joueur capable d'utiliser toute la largeur du terrain en une passe, quoi. Et ça, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, pour exploiter, on va dire, les failles du Real, parce que quand tu regardes ce qu'a fait le Real en première mi-temps, Zidane a changé plusieurs fois, hein. Je crois qu'à un moment donné, il tente même un 4-5-1. Avec un cross qui se retrouve côté gauche. Il a vraiment cherché la bonne formule pour contrôler la largeur, parce que justement un joueur comme Pjanic au milieu permettait à la Juve de vite aérer le jeu, sortir des zones de pression et tout simplement jouer au ballon, hein, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire à l'aller avec Bentancur et Khedira, il me semble, qui étaient ensemble à l'aller. Et c'est vrai que sur ce match-là, quand la Juve remontait par les côtés, il suffisait de pas grand-chose pour mettre le Real en danger. Christophe a parlé de l'absence de Ramos, qui s'est ressenti aussi quand le Real avait pas la balle. Mais voilà, quand tu vois à la mi-temps que la Juve a réussi quand même à forcer Zidane à changer totalement de plan en faisant rentrer Asensio et Vasquez, sans doute justement pour retrouver un peu d'activité sur les côtés. Tu comprends aussi que Allegri avait gagné cette première bataille. Enfin, 2-0, de toute façon, il fallait forcément changer quelque chose. Mais ce qui est marquant, c'est qu'en deuxième mi-temps, le Real n'a pas forcément été plus dangereux avec une équipe dont j'attendais quand même beaucoup plus. Parce que avec Asensio Vasquez, Kroos et Modric derrière les deux attaquants, il y avait quand même une base défensive plus solide. Le Real a mieux défendu dans ces situations-là en Liga, j'ai eu l'impression. Mais ils ont absolument rien montré sur les transitions et en contre-attaque, là où on aurait pu les attendre avec de tels joueurs, quoi.
Alors on a parlé du coaching de Zidane, Christophe, il y a eu aussi le coaching d'Allegri, très tôt en cours de match. Après 17 minutes, il sort des Siglio, il fait rentrer Lichtsteiner. Et il fait une passe décisive. Donc ça a été aussi un match où la Juve a eu besoin de correctifs en début de rencontre et Allegri qui avait très bien préparé sa rencontre et qui un peu comme dit Francesco à la Roma n'a laissé aucun doute sur la possibilité de la Juve de revenir. C'était pas impossible pour lui et il l'a bien transmis à ses joueurs. Il est vite intervenu et ça a fait beaucoup de bien à la Juve.
Ouais, alors je sais pas dans quelle mesure Deschiglio était blessé ou pas. Apparemment, il avait une petite douleur. Maintenant, c'est vrai que dans un plan de jeu comme ça, Lichtsteiner qui a beaucoup de. Enfin, qui a des faiblesses, mais côté centreur, débordement, si tu lui demandes pas de trop courir sur la phase défensive, à s'épuiser un peu partout et que tu le sollicites juste comme ça offensivement, c'est sûr qu'il est très utile. Et là, vu que dans sa zone, Marcelo était quand même bien occupé par Douglas Costa, donc il n'avait pas trop le loisir de monter et qu'il n'y avait pas de vrai ailier avant l'entrée d'Asensio, c'est sûr que là, il n'y avait pas trop de risques, donc du coup, tu pouvais assez facilement te projeter. Et c'est vrai que sur ce que disait Florent, c'est intéressant, c'est que le Real était bien plus équilibré en seconde période, parce que tu avais deux vrais ailiers avec le binôme Kroos-Modric au milieu. Alors 4-4-2, qui était même 4 fois, parfois 4-5-1 ou 4-4-1-1 quand
Avec
Isco.
Isco derrière Ronaldo. Ouais.
Parce que Isco dézonnait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu que, enfin, par exemple, dans l'équipe, il a une très mauvaise note, alors que c'est lui qui crée la plupart des situations balle au pied. Le déséquilibre et le côté un petit peu imprévisible. Alors, il y a un petit peu de déchets, mais disons, dans ses courses, etc., c'est celui qui cassait un petit peu la monotonie d'un Real qui, sinon, faisait un peu parfois toujours la même chose. Mais c'est vrai qu'en première période, d'avoir beaucoup de joueurs devant le ballon, ça t'exposait énormément parce que dès que tu la perdais, et il y avait, n'empêche, sur ce match, énormément de déchets techniques inhabituels côté Real, des passes en touche, de Kroos, de Modric à l'adversaire que tu vois pas forcément d'habitude, mais au moins d'avoir beaucoup de joueurs devant le ballon, quand ça passait, tu étais tout de suite en situation favorable parce que tu avais 6 ou 7 joueurs dans la zone dangereuse pour la Juve. Donc c'était une espèce de qui tout double qui est pas forcément pertinent, en tout cas qui semble un petit peu bizarre quand tu joues à domicile et que du coup tu dois pas prendre de but. T'imaginerais plutôt ça dans une situation inverse où tu dois en marquer. Alors qu'en seconde période, bah, le Real avait une disposition un peu classique de 4-4-2 avec chaque joueur occupant sa zone et le fait d'apporter le danger, c'était bah, ton ailier qui fait la différence ou autre et pas le fait simplement d'avoir une égalité numérique dans le coin adverse. Et le match s'est un peu normalisé avec beaucoup moins d'action pour la Juve qui a, hormis le but qui en plus vient un peu de. Enfin, ça tombe un peu du ciel quoi, éclair de Keylor Navas. Sinon, t'as pas de réelle occasion. Là, je regarde les expected goals, tu dois rien avoir à plus de 0-1, 0-1, 0-2, il y en a très très peu. Mais pareil, le Real n'a pas non plus créé grand-chose. Donc là-dessus, le 4-4-2, c'était vraiment le 4-4-2 en bloc avec les lignes resserrées, etc., qui avant tout permet de bien défendre. Plutôt que le 4-4-2 qui te permet de te projeter. Enfin, ça ressemblait plus du coup à de l'Atlético, si tu veux résumer. Ça solidifiait plus la phase défensive et ça a fait perdre au match un petit peu de sa folie et le normaliser un petit peu tactiquement.
Alors, à partir de ce moment d'ailleurs, le Real a été beaucoup plus haut sur le terrain, Florent. On a vu la Juve reculer après le 3-0. Et la présence d'Asensio et de Vasquez sur les côtés a forcé Sandro à défendre, a forcé les relayeurs à redescendre, à Douglas Costa et Mandzukic de venir aider. Et à partir de là, on a senti. Alors, il y aura la polémique arbitrale et les gens resteront très intéressés par ça, même si ça restera très difficile à résoudre. Mais on a senti que le Real était supérieur à partir de ce moment-là et qu'il y avait quand même beaucoup de présence dans la surface de la Juve et que ça commençait à enchaîner des centres. Ça m'a fait un peu penser à de toute façon à ce que fait le Real habituellement quand il est en difficulté, c'est-à-dire acculer l'adversaire sur son but et puis enchaîner des centres, des centres, des centres, jusqu'à ce que Ronaldo ou autre touche un ballon. Et c'est finalement ce qui arrive parce que c'est un ballon qui part de la gauche, qui finit à droite et Ronaldo qui gagne son duel de la tête pour le penalty sur Vasquez.
Ouais, ça commençait à peser lourd. Après, voilà, les Turinois avaient fait aussi beaucoup d'efforts pendant un peu plus d'une heure pour en arriver à ce 3-0. Donc forcément, ça se compliquait pour eux, je pense, sur le plan physique. Mais c'est sûr que là, tu parles voilà, de la dernière action. Ronaldo rate une tête qu'il ne raterait pas normalement, je pense,
Ouais, quelques minutes avant, ouais.
quelques minutes plus tôt. Je crois que c'est à la 86e. Et bon, je vais pas me lancer, je vais pas te dire lâcher un pronostic parce que après ce qu'on a fait sur
Ouais.
le dernier podcast, c'était compliqué. Mais bon, on n'y a pas eu droit à la prolongation. Mais au moment de voilà, avant le penalty, quand on va dans les prolongations, le momentum a sans doute rebasculé un peu côté Real Madrid quand même sur cette fin de match. Même un joueur comme Mandzukic qui avait été très important pour la Juve a vraiment baissé de pied en deuxième mi-temps, et en même temps c'est assez logique vu qu'il revient de blessure, il était que sur le banc au match aller. Peut-être que s'il avait joué le match aller, ça aurait peut-être changé un petit peu l'issue de la double confrontation, qui sait. pardon. Mais voilà, c'est vrai que petit à petit, même s'il n'y a pas eu grand-chose de créé dans cette deuxième mi-temps, ce qui est un petit peu une constante dans les deuxièmes mi-temps de ces quarts de finale d'ailleurs, parce que Liverpool City aussi, il s'est plus passé grand-chose sur la deuxième mi-temps du match retour. Le but de Liverpool a un petit peu tué le suspense, on reviendra dessus. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, petit à petit, on sent que ça rebascule petit à petit côté Real. Et la Juve n'a pas vraiment eu d'opportunité, il me semble. Hein, moi, j'ai pas revu le match comme Christophe, mais peut-être qui démentira, mais n'a pas vraiment eu d'opportunité de mettre ce quatrième but qui, là, par contre, aurait vraiment mis fin au suspense et sans doute qualifié la Juve.
Entre le troisième but de la Juve et la fin de match, il y a 7 tirs à 1 pour le Real. Donc
Et
c'est
voilà.
là que l'écart a été fait. Ça finit à 18 tirs à 11 pour le Real Madrid. Donc avant le troisième but, enfin au moment du troisième but, les deux équipes sont à égalité en termes de tirs et ensuite ça va complètement du côté du Real. Moi j'avais une question pour toi Christophe parce que enfin, j'ai l'impression que c'est une observation qu'on fait à chaque fois sur le Real Madrid cette saison, c'est que le Real est mieux quand il passe en 4-4-2 avec des joueurs vraiment de couloir comme Asensio et Vasquez, à la fois plus équilibrés et avec plus de poids offensif qui amène l'adversaire à reculer. Est-ce que quand tu prévois le Real demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions si ça va jusqu'au bout, est-ce que le changement de système n'est pas la voie à suivre pour que le Real soit vraiment meilleur collectivement? Puisque le losange se fait quand même souvent dominer malgré le surnombre au milieu de terrain, se fait dominer par des joueurs qui arrivent lancés, par des joueurs qui trouvent des espaces entre Casemiro, Modric et Kroos. Et on a l'impression que quand il y en a un qui sort, ou alors quand tu laisses plus de place à des Asensio, des Vasquez, et que tu pars sur un dispositif plus simple et, je veux dire, plus facile à structurer défensivement, le Real est meilleur. Est-ce que ça peut être un changement définitif pour Zidane, en tout cas dans cette compétition?
C'est difficile parce que Zidane cherche, essaye beaucoup de choses. T'as l'impression qu'il cherche tout le temps la bonne formule. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est parce que justement il ne trouve pas exactement ce qu'il cherche, ou si c'est parce qu'il veut un petit peu poser problème à l'adversaire en ne sachant tu vois, que ça soit vraiment impossible de deviner quel type de Real tu vas affronter. Même là, je veux dire, à partir du moment où tu alignes Bale en attaque, ça change la manière dont tu devrais appréhender la défense par rapport à si tu avais Benzema, qui est beaucoup plus dans le jeu sans ballon, etc. Là, tu avais Bale et Ronaldo qui pouvaient tous les deux assumer des responsabilités en prenant la balle et en frappant de loin. Donc je sais pas. Après, c'est vrai que, enfin, on l'a dit souvent ici, et même s'il s'est un petit peu réveillé, on va dire en février-mars, il y a quand même un gros problème sur Casemiro, qui encore sur ce match-là, même s'il récupère 2-3 ballons, dont un assez intéressant où il coupe une contre-attaque à 30 mètres du but adverse, et du coup il permet d'avoir une situation très rapide pour le Real. Sinon, c'est lui qui coûte malgré tout le premier but, parce que c'est lui qui perd la balle sur une espèce de contrôle un petit peu raté. Et globalement, non seulement c'est vraiment le maillon faible quand t'es aux possessions du ballon, donc c'est le joueur le plus facile à cibler, mais en plus, ce qu'il apporte à la récupération est loin d'être suffisant pour compenser ça, et les joueurs...
Il récupère un seul ballon sur la rencontre.
Ouais, voilà.
45 minutes, il sort la mi-temps, mais un seul ballon en 45 minutes, c'est très loin de ses standards 2015-2016, quoi.
Ouais, et puis donc, si, à partir du moment où tu joues en losange et que la pointe basse du losange ne récupère pas grand-chose et que tu te retrouves à la mettre, alors pas tout le temps, hein, mais assez régulièrement en pointe haute parce que tu veux pas le solliciter, sachant qu'en plus... Ok, tu le mets en pointe haute pour pas qu'il assure la première relance, mais généralement, tu finissais quand même par le toucher et il se retrouvait parfois seul à 35 mètres du but. Et donc, il était quand même amené à devoir faire une passe intéressante, décisive, hein, dans une zone où tu dois avoir du tranchant, et ça, pareil, il ne savait pas le faire. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où tu veux enlever Casemiro et que tu dis que de toute façon, Kroos, Modric, ça reste ton meilleur milieu de terrain, bah, tu te retrouves à jouer en 4-4-2 à plat, et c'est vrai que ça me semble être le dispositif le plus équilibré. Après, là, c'est sûr que pour juger le 4-4-2, il faut aussi le mettre par rapport à l'adversaire. Et dès que la Juve a marqué son troisième but, la Juve s'est vraiment repliée, je ne vais pas dire tout le monde derrière, mais en tout cas, ça a vraiment serré les rangs. Alors, tu as deux grosses occasions, enfin, une occasion juste avant le pénalty, plus le pénalty où c'est Alexandro qui ne joue pas le hors-jeu, alors que tout le monde monte. Et du coup, Alexandro se retrouve à jouer le duel avec Ronaldo, et ensuite Vasquez est tout seul. Mais pourquoi il est tout seul? Parce que tous les Juventini sont montés de 4 mètres pour le mettre hors jeu, donc Alexandro pas très lucide sur ce coup-là à la dernière seconde. Mais je veux dire, t'as aussi le côté Juve très fatigué qui fait que le 4-4-2 en plus était amené à briller. Je pense que dans tous les cas, le 4-4-2 est meilleur, mais c'est sûr que dans ce contexte, t'étais à peu près sûr d'avoir du contrôle à partir du moment où la Juve prenait une petite pause sur la dernière demi-heure pour se reposer.
Avec la différence de qualité entre les deux bancs qui s'est vue aussi, parce que Allegri n'était pas pressé non plus de faire d'autres changements. Alors il y avait Cuadrado peut-être qui aurait pu apporter sur un registre de contre-attaque, mais en dehors de ça, sur le banc, c'était Storaro, Marquisio. Des joueurs de qualité, mais pas des joueurs qui allaient changer la manière dont allaient jouer.
Surtout ça, que là, Marquisio, je ne pense pas que ça soit pertinent quand t'es... Ouais. À partir du moment où t'avais perdu le contrôle, donc c'est sûr que là, ça allait mettre... fallait mettre. Disons, si tu fais un changement, le plus évident, ça semblait être Cuadrado qui va très vite pour les contre-attaques par rapport à Mandzukic, où tu dis on gagne en vitesse et puis on va perdre sur les duels aériens et puis on voit ce qui se passe, en sachant que dans tous les cas, tu peux intervertir en plus avec Douglas Costa qui peut jouer à droite, à gauche. Donc tu pouvais mettre un petit peu cette variété-là. Mais c'est vrai que sinon tu n'avais pas non plus 15 000 options.
En parlant d'équipes qui ont perdu le contrôle, on va passer au match le plus fou de la semaine. Florent, c'était le match entre la Roma et le Barça. Un Barça qui avait remporté le match aller 4-1 malgré une performance moyenne. C'était un peu l'histoire du Barça en Ligue des Champions cette saison. C'était pareil contre Chelsea où ils n'avaient pas été flamboyants et malgré tout ils étaient passés avec des scores larges qui n'étaient peut-être pas mérités pour le Barça. Et là, ils se sont fait sanctionner. J'ai l'impression que le karma est revenu d'un coup sur cette rencontre avec une Roma excellente, une Roma efficace et une Roma qui avait un système particulier, un 3-4-3 avec notamment Chic derrière Dzeko ainsi que Nainggolan. Tout ça pour embêter Jordi Alba notamment. Enfin bref, la Roma avait très bien préparé son match. Di Francesco avait ciblé et visé les faiblesses du Barça et elles ont explosé en vol sur 90 minutes et la Roma a été excellente.
Ouais, une grosse sanction. En préambule, je vais rebondir sur le match face à Chelsea, la double confrontation. Le Barça ouais. passe en faisant un partout et 3-0, hein, c'est ça, au retour. Ouais. Il me semble. Oui, c'est ça, je crois. Pour un petit peu comparer les approches de Conte et de Di Francesco, Conte, sur le match aller, on l'avait vu, on a vu du Conte, c'est-à-dire le classique, une équipe qui est très solide dans sa moitié de terrain, qui fait quelques séquences de pressing, mais qui passe le plus clair de son temps, on va dire, dans ses 40 mètres, et qui ensuite cherche à sortir très vite en contre-attaque, avec Hazard, avec Willian, et avec Pedro, c'était Pedro qui jouait le match aller. Et le truc, c'est que quand tu joues comme ça face au Barça, tu le mets dans des conditions idéales pour qu'il défende de la façon dont il préfère, c'est-à-dire dans le camp adverse, très haut, à la perte de balle, avec Busquets et Rakitic qui avaient fait un match excellent à l'aller, lors du 1 partout, en tout cas pendant une heure. La dernière demi-heure avait été un peu plus compliquée, Chelsea avait réussi à sortir avec Willian, mais voilà, ça avait tenu parce qu'ils avaient fait un très gros match. Di Francesco, il a pris l'option opposée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Barça, sa zone de confort pour attaquer, pour défendre, c'est dans les 40 mètres adverses, c'est-à-dire c'est dans mes 40 mètres, Di Francesco, il a construit son équipe à l'aller comme au retour. Et ça a encore mieux marché au retour parce qu'il a récupéré un moteur supplémentaire au milieu de terrain avec Nainggolan. Il a fait le pari inverse, c'est-à-dire on va passer le moins de temps possible dans cette zone-là, dans ces 40 mètres. Et l'avantage, donc, pour ça, il a développé un pressing et un jeu avec le ballon qu'on détaillera après. Mais l'avantage de ça aussi, c'est qu'en jouant de cette manière-là et en ayant cette approche, c'est-à-dire je veux empêcher le Barça d'arriver dans mon moitié de terrain, qui est l'option opposée, on va dire un peu de Conte, il s'est aussi mis à l'abri d'une chose qui a fait sombrer le Chelsea de Conte, c'est les erreurs individuelles. Puisque les erreurs à 30 mètres des buts ou à 20 mètres de tes buts, ça fait but contre Chelsea avec l'erreur de Christensen ou Courtois qui se fait prendre à son premier poteau. À partir du moment où la Roma jouait beaucoup plus haut, des joueurs comme Fazio ou comme d'autres ont pu faire des petites erreurs de marquage, des petites approximations, mais forcément c'était rattrapé parce que derrière il y avait un repli qui était plus efficace que les projections du Barça et les erreurs à 40 mètres des buts, si t'es plus rapide que l'adversaire, t'arrives à empêcher qu'elle soit sanctionnée, quoi.
Ouais. Puis alors, Christophe, t'as revu le match dans la nuit. Ce qui t'a impressionné, c'est le pressing de la Roma. Alors à la fois par sa structure, mais aussi par son intensité. C'est un registre qu'on ne reconnaissait pas forcément, surtout pour les gens, je pense, qui ont l'image de la Roma un peu floue, parce que c'est pas l'équipe qu'on a le plus vue cette saison. Mais Di Francesco avait déjà bien empêté le Shakhtar, qui est une équipe qui savait sortir le ballon aussi, avec un pressing haut et une bonne gestion de la profondeur, notamment avec Manolas et Fazio qui avaient été énormes. Et on a retrouvé un peu le même type de plan tactique. Alors c'était dans un autre système que contre le Shakhtar, mais ça a été très bien préparé. Et la performance devant de Dzeko et Chic a complété un peu ce que voulait faire Di Francesco défensivement.
Et tu vois, ce qui prouve que le pressing était bon, c'est qu'après coup, j'ai regardé les stats de course sur le site de l'UEFA. Je me suis dit, putain, la Roma a tellement couru qu'ils vont exploser les stats. Alors qu'en fait, pas du tout. La Roma a très peu couru. C'est l'un des matchs, je pense, le match où la Roma a le moins couru de toute la Ligue des Champions. Et même par rapport à la moyenne de la Ligue des Champions, c'est bien en dessous. Comparé par exemple à la Juve qui a quasiment battu le record de Tottenham sur le match du lendemain au niveau de course totale de l'équipe. Là non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu étais tellement haut sur le terrain et que tu laissais tellement d'espace. Et pour le coup, tu as tout fait à très haute intensité. Mais disons ton 3-4-3 losange. Alors j'ai vu que c'était parfois marqué 3-5-2. En fait, c'est juste que Chic jouait assez haut. Mais dans l'absolu, c'était 3-4-3 losange avec Dzeko premier au pressing qui allait sur le gardien. Nainggolan côté gauche, Chic côté droit. Et Strootman qui jouait pointe avancée du losange pour être pareil lui aussi très 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 agressif au pressing. Et en fait, t'allais vraiment chercher très très haut, tellement haut qu'en fait ton pressing il se poursuivait sur le gardien. Et du coup, Ter Stegen, ce qui est très très rare, était toujours obligé de balancer les ballons. Et une fois, deux fois, même la défense, tu te disais bon, il cherche le chaos, le coup dur en balançant loin devant, mais pour une contre-attaque. En fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était... Enfin, s'il y avait une contre-attaque, c'était bien, mais qu'en fait, tu étais juste là pour rendre le ballon. Et le Barça, qui souvent prend un peu le parti de se dire, bon, on prend le risque de relancer, même sous une grosse pression, parce que sur le long terme, ça va payer, et parce que notre identité de jeu, c'est d'avoir le ballon malgré tout, même si c'est un peu moins le cas qu'avant. À partir du moment où ta ligne Iniesta, Busquets, etc., tu es quand même obligé d'avoir le ballon. Eh bien non, là, le Barça n'a même pas cherché à le faire. C'est sûr que c'était très risqué, mais le Barça a très vite rendu le ballon. Et donc, du coup, le simple fait d'avoir énormément de joueurs très très haut sur le terrain qui marquaient tous les Barcelonais, avec en plus Kolarov et Florenzi, les deux latéraux qui sortaient à toute vitesse pour doubler si Nainggolan, par exemple, était passé, bah, ça faisait qu'en fait, le Barça était totalement acculé, mais pendant quasiment 90 minutes. Et c'est même pas que le Barça a fait une mauvaise performance ou autre. Je pense que tu fais 10 fois le match, tu as 9 ou 10 fois, alors tu n'as pas forcément le même score, mais la même physionomie du match, à savoir un Barça qui n'arrive pas à ressortir. La seule solution, ça aurait été alors soit de profiter d'une contre-attaque sur un ballon balancé très rapidement, ce qui a failli arriver en tout début de match avec Sergi Roberto qui rate une occasion, mais ça demande un peu de chance, une qualité technique. Enfin, c'est quand même très improbable d'avoir pile une bonne situation quand tu as tendance un peu à balancer le ballon. Sinon, il aurait fallu prendre le parti d'essayer de relancer sous pression. Là, pour le coup, ça aurait été un quitte ou double, parce que chaque ballon perdu aurait pu se transformer en but. Mais là, à partir du moment où tu subissais le pressing et tout ce que tu faisais, c'était rendre le ballon, bah, tu n'étais pas maître de ton jeu et tu te retrouvais à jouer totalement contre nature, même pour ce Barça-là.
Alors, Florent, il y a un truc qu'on appelait à l'époque le plan à la Raúl García.
Ouais.
Contre Jordi Alba, là, du coup, il s'appelait Patrick Schick, mais vas-y, continue.
Juste avant là-dessus, après on pourra partir sur Schick et sur Dzeko aussi en parallèle. C'est par rapport à ce que disait Christophe. En plus, les moments où le Barça essaie de repartir court, je viens de séquencer la première mi-temps là pour un papier, c'est arrivé hein, en première mi-temps, notamment à partir de la 22-23e minute. Et en fait, à chaque fois que le Barça essaie de repartir court, très souvent, il y a une grosse faute côté romain pour casser l'action parce que bah, le Barça trouve une solution. Donc, il y avait peut-être quelque chose à faire en insistant là-dessus et en insistant sur cet ADN-là qui est l'ADN, on va dire, du Barça de ces dernières années. Parce que peut-être qu'il y aurait eu plus de cartons et peut-être que la Roma n'aurait pas terminé à 11. Parce que quand tu vois le match, d'ailleurs, Fazio frôle le carton rouge à la 58e, juste après le 2-0, pour une grosse faute sur Iniesta. Il frôle le deuxième jaune.
Il y a deux des trois centraux de la Roma qui prennent jaune.
Ouais, et Jesus sur un beau chassé sur Messi ouais, en première mi-temps. Et là, là-dessus, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais après, on sait que c'est pas. Voilà, on avait déjà vu le Barça sous pression pendant une mi-temps face au Real Madrid. Et ce jour-là, le Barça avait passé la première mi-temps, laissé passer l'orage, et passé la première mi-temps en jouant long sur Suarez ou sur Paulinho. Et là, un joueur comme Paulinho, à la demi-heure de jeu, si tu continues de jouer comme ça. Peut-être que le Barça aurait gagné, comme le disait Christophe hier là, quand on en discutait, à le faire entrer en jeu très tôt dans le match. En tout cas, s'il voulait jouer de cette manière-là. Après, s'il voulait insister sur son identité de base, il aurait peut-être gagné à le faire. Mais voilà, quand tu joues comme ça, si tu commences à balancer, à balancer, à balancer, voilà, Sergi Roberto face à Juan Jesus, bon, il n'y a pas match dans les airs. Tu mets Paulinho déjà, ça change un petit peu la donne.
Alors, match dans les airs, c'est le voilà, un autre thème aussi, ouais, du match, j'étais parti sur le Raúl García, parce que c'est à l'époque ce que faisait Simeone contre le Barça, en mettant Raúl García contre Jordi Alba. Là, sur le coup, ça a été Schick, Christophe, et ça a très bien fonctionné, puisque malgré une performance moyenne dans le reste du jeu, Schick a gagné beaucoup de ces duels-là et a permis à la Roma d'avancer.
Ouais, Schick qui est pas si grand, il fait 1m86, mais quand tu le vois, il a l'air beaucoup plus grand, il a un jeu un peu, alors à son niveau hein, pour l'instant, mais un peu à la Ibrahimovic, c'est-à-dire qu'il a l'air un peu, parfois un peu grand, limite un peu dégingandé, sans forcément trop d'allure, et en fait tu te rends compte qu'il a des inspirations techniques qui ne sont pas celles des petits, tu vois, mais il va avoir des contrôles aériens, des petites inspirations, tu dis, ah oui, effectivement, il y a quand même de la technique, mais sur sa saison, il est quand même vraiment pas très bon, et c'est... Donc là, il joue ailier droit, mais qui des fois allait aider un petit peu Dzeko en attaque, mais il restait quand même vachement côté droit. C'est pas son rôle, il fait pas une bonne saison. N'empêche que un, il était dans l'expression collective au pressing, c'est-à-dire qu'il a pas lâché son homme, il était toujours dans la zone d'Alba Umtiti pour la relance. Mais donc, comme tu l'as dit, dans le domaine aérien, même si 1m86, c'est pas 2 mètres, n'empêche qu'en plus, il a une bonne détente,
c'est et que face à Alba, c'est largement suffisant. C'est 1m60. 70, en fait, c'est ça le vrai problème.
Ouais, je veux dire, mais il y a même la République tchèque qui l'avait fait une fois avec Gebrselassie dans un match d'Euro qui n'est pas non plus un géant, enfin, il fait pas non plus 2 mètres. Et c'est vrai que là, ça offrait une variété bienvenue, parce qu'en gros, ça te fait un duel que tu es sûr de remporter. Et malgré tout, même si la Roma avait une intensité folle au pressing, t'avais pas tellement de grands joueurs de ballon, j'exagère un peu, mais disons, t'avais vraiment tout mis sur l'intensité, sur avoir des chiens de garde, sur N'Golan que tu décales côté gauche pour vraiment qu'il muselle tout le côté droit et qu'il court partout. Et disons, à te fatiguer comme ça, tu peux perdre un peu la lucidité. Et qui fait ta dernière passe? Tu peux avoir Strootman qui va faire la dernière passe, mais sinon, t'as pas non plus 15 000 créateurs, ce qui est logique. Enfin, c'est difficile d'avoir à la fois des créateurs et des joueurs qui vont courir partout dans l'intensité, etc. Et donc, du coup, bah, tu fais une petite transversale de Kolarov vers Schick. Schick te fait la remise aérienne de la tête. Et ensuite, tu as quelqu'un comme Florenzi ou Strootman qui viennent en deuxième rideau. Ou alors, Schick peut intervertir avec Dzeko, prendre la pointe. Dzeko va côté droit, ce qui est arrivé une fois ou deux. Et ça te fait vraiment une variété bienvenue. Et c'est là qu'on a vu que Di Francesco avait vraiment tout prévu. C'est-à-dire qu'en gros, il savait qu'il allait peut-être se priver de solutions dans l'entrejeu et que son système allait être vachement écarté. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il te met aussi des possibilités de mettre le Barça en danger sur des phases assez simples de renversement de jeu et de remise de la tête pour jouer les seconds ballons, où en plus, le Barça, moins que le Real, enfin plus que... Je vais y arriver, je sais pas, moins plus, mais en tout cas le Barça était un peu endormi, ok, Iniesta, Sergio Roberto, Busquets, c'est pas non plus des pitbulls, c'est un peu à leur tempo, à chaque fois ils contrôlent le jeu, mais même là sur les seconds ballons, etc., il y a des fois où même Rakitic qui fait une super saison a beaucoup courir, bah t'avais des ballons dans des zones disputées et les joueurs de la Roma qui avaient 2 mètres de retard au départ arrivaient en premier sur le ballon. Et là c'est tout con, alors est-ce que c'est une différence d'envie, enfin tu vois, tu caractérises ça comme tu veux, mais en plus quand tu gagnes des duels que t'es censé perdre parce que simplement tu cours plus vite et tu vas plus vite dans les zones, ça te fait quand même un gros avantage parce que du coup ça te permet d'avoir des erreurs sur les relances, etc. T'as pas besoin d'être parfait puisque ton envie va réussir à compenser un petit peu tes lacunes.
Ah bah alors sur ce domaine-là de l'intensité et de la dominance athlétique, il y a deux stats que je vois là qui me marquent, c'est les duels aériens. La Roma en a remporté 15, le Barça 7. Ouais. Et aussi une stat qui est un peu faussée parfois, qui n'est pas forcément la stat la plus intéressante, mais quand elle concerne le Barça 6, c'est le pourcentage de passes réussies.
Ouais,
76. Et là, il est à 76%, c'est une stat clopienne, quoi. La Roma est à 74%, donc la Roma c'est logique, parce qu'ils sont dans un registre d'intensité de jeu vertical, ils avaient un score à rattraper. De la part du Barça, Florent, c'est plus surprenant et ça traduit beaucoup de choses du Barça actuel. C'est-à-dire que c'est un Barça qui garde une certaine partie de cette identité de jeu, et on l'avait déjà évoqué, mais qui en a perdu quand même pas mal des composantes et qui, en dehors de ça, ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire que quand ce registre-là est battu, est éliminé par l'adversaire, t'as pas le registre du Barça 2015 qui existait avec Luis Enrique où tu vas pouvoir attaquer autrement et qui avait notamment battu la Juve comme ça.
C'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, hein, quand on parlait de... Des limites du Barça, c'est-à-dire que par rapport au Barça de Luis Enrique, en tout cas en Ligue des Champions, celui de Valverde donc, n'a plus Neymar, et Neymar et le trio Neymar, Messi, Suarez.
Et c'était un autre Suarez aussi, il faudra le dire.
C'était aussi un autre Suarez, évidemment, oui. Mais ce trio-là, il te faisait la différence, justement, quand tu prenais la pression, quand tu défendais bas, ça restait une énorme menace pour l'adversaire. Aujourd'hui, et sur ce match-là, et sur la campagne de Ligue des Champions, cette menace, elle n'existe pas, et c'est ce que je disais la semaine dernière, elle pousse forcément l'adversaire, s'il est un peu ambitieux, ben, ce Barça-là, je vais l'empêcher de jouer haut, je ne vais pas l'attendre, parce que de toute façon, dans mon dos, je n'ai pas peur de Suarez, je n'ai pas peur de Messi, je n'ai pas peur d'Alba, qui au final est peut-être la seule menace capable de faire des appels
dans la profondeur
sur ce match. Et d'ailleurs, la Roma, sur les quelques situations où le Barça a eu de la place au milieu de terrain pour justement chercher la profondeur et chercher à jouer dans le dos de la défense, la Roma a très bien su gérer la profondeur.
Ils sont très forts là-dessus. Hein.
Notamment avec Manolas dans l'axe, ou avec Florenzi aussi, qui était très attentif par rapport au déplacement d'Alba. Donc à partir du moment où tu arrives à gérer ça, le Barça n'a plus ses joueurs capables de faire des contre-attaques sur 60 mètres. Et de les mener à terme. Alors, il ne les a plus en Ligue des Champions, il les a peut-être en championnat avec Coutinho et Dembélé, qui est encore en situation d'adaptation, et donc du coup, il les aura peut-être l'année prochaine. Mais c'est vrai que cette année, c'était un vrai point faible du Barça, une vraie limite, et la Roma a parfaitement su jouer dessus, quoi.
Christophe, il y a un truc qu'on avait évoqué récemment et dont je regrettais, c'était la faiblesse des collectifs, en tout cas chez les grosses équipes. La victoire de la Roma sur le Barça est, je trouve, un bon message pour la Ligue des Champions et pour le football européen en général, c'est que tu peux avoir des joueurs meilleurs si l'adversaire est mieux préparé que toi et travaille plus en équipe et plus collectivement et plus cohérent, tu peux passer quand même. Parce que je trouvais assez inquiétant les performances collectives moyennes du Real, du Barça, parfois du Bayern, qui passait parce que l'écart individuel était tel que c'était même plus une compétition, c'était juste un espèce de spectacle où tu avais un mini pouce qui essayait de remporter un match face à un géant, tu vois. Et là, le fait que la Roma passe, je trouve que, alors, à se voir si ça se vérifiera sur long terme, parce que l'écart va continuer à se creuser entre les équipes du top 20 et les équipes du top 8, mais sur le court terme, je trouve que c'est plutôt positif.
Bah, c'est sûr que, et c'est pareil pour Liverpool, alors face à City, c'est un contexte un peu particulier, mais n'empêche que et Liverpool et Rome ont leurs limites, mais ont su faire exactement ce que. Elles ont su exactement faire ce qu'elles voulaient. Et autant, pareil, la Juve, même si elle était passée, tu voyais quand même ses limites, notamment individuelles, mais même dans le collectif, il y a quand même des failles, tout n'est pas parfaitement rodé. Et sur ce match-là, en fait, c'est sûr que autant Rome, c'est difficile de voir des vraies limites collectives. Tu dis, ah tiens, bon, tel dribble a été raté, ou tiens, le débordement, le centre est pas super bon. Mais honnêtement, dans le plan de jeu, tu dis, franchement, rien à dire, tu as une rigidité absolue du système, mais qui était nécessaire. On m'a dit, c'est Saint-Piotte sur Twitter qui m'a dit que c'était peut-être lié au fait que la Roma ne joue jamais comme ça. Et donc, du coup,
Ça a été très scolaire, ouais.
ouais, c'était très scolaire et les joueurs n'ont pas pris sur eux de commencer à prendre des libertés au sein d'un système parce que du coup, ils n'étaient pas habitués à faire ça. Et que voilà, à partir du moment où tu mets Nainggolan couloir gauche, couloir droit, c'est sûr qu'ils ne vont pas commencer à s'enflammer, à faire des choses qu'ils ne savent pas. Ils vont exactement répéter ce qu'on leur a dit. Je pense que c'est vraiment une explication. Mais tu vois, si Barcelone était passé, ok, ça passe parce que Messi ou autre, mais la chose que j'aurais vue, c'est les limites. Les limites, par exemple, au pressing, parce que dans ton 4-4-2, Suarez court assez peu et Messi courait absolument pas sur ce match-là. Tu vois, Messi, invisible dans les grands matchs ou autre, au-delà de la vanne, c'était très difficile pour lui de se mettre en évidence avec le ballon parce qu'il était en bout de chaîne et le ballon lui arrivait assez peu. Donc, c'est pas lui le problème, quoi. Le problème était plus bas. Après, dans l'investissement défensif, tu peux un minimum essayer de cadrer le porteur ou autre. Là, il a marché pendant tout le match. Donc, c'est sûr que du coup, c'était pas compliqué pour Rome d'arriver assez vite au milieu de terrain. Et puis dans le plan de jeu de Valverde, que j'ai loué ici pour son pragmatisme. Alors, tu peux le voir négativement, mais au moins, ça lui a permis de filer vers un titre de champion et de pas perdre un match en championnat. Mais comme disait Florent tout à l'heure, quand tu mets Iniesta, Sergi Roberto sur les côtés, c'est pour avoir le ballon. Alors, soit tu mets un Dembélé, notamment quand tu perds 2-0 parce que tu sens qu'il y aura des espaces et que tu veux jouer la contre-attaque, ou alors tu mets Paulinho si tu veux combattre un peu avec Rome dans le duel physique, mais là tu as gardé des joueurs de possession tout le match alors que tu n'avais pas de possession. Donc Barcelone, ça, si c'était passé, ça aurait vraiment été sur un exploit individuel. D'ailleurs, là, tu vois, les expected goals, c'est 2,52 à 0,65. Sachant que le 0,65, tu dois être à 0,30 à la 85e. Ça doit être la frappe de Messi là, quand il a 2-3 comptes favorables et qu'il rate sa frappe dans les 6 mètres qui fait la moitié de tes expected goals du match. Donc bref, tout ça pour dire que la Roma aurait été éliminé sur un, sa malchance des CSC au premier match ou autre, mais deux, sur les lacunes individuelles qui fait que t'as un buteur de moindre niveau, t'as des milieux de terrain moins capables de faire la dernière passe ou autre. Et là, ça s'est compensé. La discipline et tout le travail tactique en amont a compensé ce qui, d'habitude, ne se compense pas forcément, à savoir le fait qu'un Messi ou autre sont très difficiles à arrêter et qu'il suffit d'une passe d'Iniesta pour que tu perdes un match.
Quand on fait le bilan un peu de ces matchs-là, Florent, j'ai l'impression que, quels que soient les problèmes de chaque équipe collectivement ou individuellement, ces quarts de finale, ils ont été ultra importants en termes de qualité de la défense centrale. Tu vois, quand on parlait du
Ouais.
match retour du Real Madrid
Ouais.
contre la Juve, tu as aussi l'absence de Ramos. Là,
Ouais,
sur le
bien
match du
sûr.
Barça, tu as aussi Piqué et Umtiti qui sont pas au niveau qu'ils avaient eu contre Chelsea.
Ouais.
Parce que contre Chelsea, ils avaient été énormes malgré les faiblesses collectives. Tu as Manolas, Jesus, Fazio qui sont énormes. Tu as Lovren et Van Dijk qui se transcendent contre City. Surtout sur la deuxième mi-temps du match retour et même un peu sur les centres en retrait de
À
City à
Otamendi qui
répétition.
perd deux ballons.
Voilà, on va en parler un peu. Mais j'ai l'impression que ça a été limite le poste le plus important sur ces quarts de finale.
Ouais. Là, tu les as énumérés, mais sur le match retour face au Real Madrid, Chiellini fait un très gros match aussi.
Ah, il est énorme, ouais.
Et alors qu'il s'était raté à l'aller, hein, le 2-0, c'est un peu pour lui avec une mésentente avec
Buffon. Avec Buffon.
Voilà. Mais c'est vrai que hier, quand tu vois la fin de match de Manolas, non, avant-hier, c'était mardi. La fin de match de Manolas, où au-delà du troisième but qu'il met sur corner, où il coupe bien au premier poteau, il coupe deux centres qui font but, hein, s'il n'est pas là, hein, parce que je crois que c'est Suarez qui est derrière à chaque fois. Donc il est clutch au possible. Fazio et Juan Jesus, qui ne sont pas non plus des très grands défenseurs, font de très bonnes prestations. Et c'est vrai qu'en face, Piqué Umtiti, face à Dzeko, ça a été très 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 compliqué. On a parlé de Chic tout à l'heure, mais Dzeko fait un très très grand match. Il les a dominés, mais...
Dzeko fait une très grande saison finalement, parce que quand tu regardes ses gros matchs,
dans les gros matchs, il est là, ouais, c'est ça.
En poule contre Chelsea, il les avait nettoyés aussi, il me semble. Il avait marqué un but incroyable là sur un appel de balle. Je sais pas si vous vous rappelez, là, une volée. Il fait une campagne, Dzeko, assez dingue aussi.
Et c'est vrai que là, sur ce match-là, le grand attaquant, grand par la taille, etc. hier pour. Parce que, comme ça, j'ai réécouté ce qu'on avait dit lors de France-Portugal et l'entrée d'Eder, et sur l'importance des attaquants grands par la taille dans des matchs où l'intensité n'est pas énorme, parce que tu as le temps de t'appuyer sur eux, ou face à un adversaire qui ne mettrait pas beaucoup d'intensité, tu as le temps de t'appuyer sur eux, ils ont le temps de fixer plusieurs adversaires, et ensuite de libérer et de donner la balle. Et c'est vrai que Dzeko, vu que sur ce match-là, il y a eu très peu de prises à 2 ou 3 sur lui, il y a eu très peu d'intensité autour de lui, il a très souvent fait forcer Piqué à se désaxer, il a très souvent embarqué Umtiti, le but là par exemple qu'il marque, où il passe entre Umtiti et Alba, le penalty, il se retrouve en contre avec Piqué, et Piqué l'amène au sol parce qu'il n'arrive pas à rivaliser. Donc voilà, là il a vraiment fait un match de déménageur, et avec... quand même un peu de finesse, parce qu'il a perdu assez peu de ballons, j'ai l'impression, une fois qu'il avait réussi à les contrôler.
Il y a une petite différence de qualité avec Eder.
Évidemment. Mais non, ouais, très, très grand match pour lui, et pour extrapoler un petit peu par rapport à Umtiti et l'équipe de France, c'est pas la première fois qu'il a du mal face à un attaquant grand par la taille. Alors, il y a eu Eder, mais il y en avait eu d'autres aussi par le passé à Lyon. Il y a peut-être une question qui va se poser... pour lui comme pour Varane d'ailleurs de l'autre côté, parce que c'est un joueur aussi qui peut avoir du mal face à ce genre d'attaquant. Je me rappelle par exemple face à Pelé lors d'un match amical où ils avaient eu beaucoup de mal à gérer Pelé lors d'un Italie-France. Et il y a peut-être une question si l'équipe de France croise la route d'un attaquant de ce genre-là. Alors ça sera pas Dzeko vu que la Bosnie n'est pas au Mondial, mais un mec comme Lewandowski par exemple, ou j'en ai pas d'autres.
Gomez, si Gomez remplace, enfin t'as Gomez Wagner qui sont les deux remplaçants de Werner en équipe d'Allemagne, et Gomez qui n'était pas là pour la demi-finale de l'Euro 2016, donc du coup on n'aura jamais su ce qui se serait passé s'il y avait eu Umtiti Gomez. Mais c'est vrai qu'il y en a pas non plus 1000 des attaquants grands qui sont titulaires en sélection. Mais ceux qui jouent, c'est rien que sur leur qualité naturelle, finalement leur qualité physique, peuvent t'embêter.
Voilà, c'était petite aparté pour boucler.
Ouais, non, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais tu vois, quand on parle des défenseurs centraux, c'est aussi une manière de faire une transition vers City-Liverpool, qui a été un match, je pense, qui a été trop vite tué par un but de Salah, parce que City avait vraiment fait une première période énorme, et Christophe, tu vas détailler ça. Mais là aussi, on a vu l'importance de la défense centrale, et Van Dijk et Lovren, et surtout Lovren a été étonnant, parce que Van Dijk, on connaissait sa qualité, on l'avait pas vu à ce niveau-là de compétition, mais on savait qu'intrinsèquement, c'était très fort, et même s'il fait une erreur en début de match qui donne le 1-0 à City, il a été très performant ensuite dans les airs, et ça change une défense basse, surtout pour Liverpool. T'as aussi la performance d'un Lovren qui se transcende et qui permet à Liverpool de tenir malgré une domination totale de City en première période, avec un système de jeu différent de l'aller.
Ouais, c'est... Et en fait, j'ai encore plus envie de louer notamment Van Dijk après le premier but, parce que on en a parlé ici la semaine dernière de Otamendi, qui n'est pas le seul, mais qui plonge quand il fait une erreur, mais même quand c'est son partenaire qui fait une erreur, en tout cas quand son équipe commence à être un petit peu dans la difficulté, bah, mentalement, tu sens qu'il n'y a plus de son, plus d'image, ça répond absolument plus. Là, au contraire, Van Dijk qui fait son erreur, enfin erreur qui n'est pas non plus scandaleuse, tu vois, il ne rend pas le ballon à l'adversaire dans ses 6 mètres. Ensuite, il faut encore profiter de l'aubaine, parce que voilà,
Ah ouais, tu
Liverpool
sais que c'est
jouait un petit peu haut. Fin...
il s'était tellement tellement déporté sur l'extérieur pour relancer que la moindre perte de balle
Ouais,
était
c'est ça
dangereuse
en
en
fait,
fait.
c'est son positionnement. Du coup, forcément, le bloc était un petit peu disloqué dans cette zone axe gauche si tu prends côté Liverpool. Mais derrière, tu n'as aucune panique de sa part et de la part de Liverpool. Et ok, tu as domination totale de Manchester City, mais tu n'as pas non plus 15 000 occasions qui sont créées face à des décalages. Je veux dire, la plupart des occasions, c'est parce que soit tu as une égalité numérique, parce que City, tout le monde joue très très haut, donc forcément. Le moindre déplacement, bah, tu as un joueur qui peut être libre parce que tu es à 8 contre 8 dans la zone dangereuse adverse. Mais sinon, c'est crochet extérieur de Bernardo Silva, Sané qui va percuter individuellement. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a eu du danger sur le but de Liverpool. Mais quand tu es autant acculé alors que tu n'es pas forcément réputé pour être la meilleure équipe sur bloc bas, même si tu as fait un bon premier match aller, bah, honnêtement, j'ai vraiment envie de tirer un coup de chapeau à Liverpool parce que je pense que. Je ne vais pas dire n'importe quelle équipe, mais il y a beaucoup d'équipes qui, face à ce Manchester City-là, auraient pu soit ne pas avoir la lucidité tactique de bien déplacer le bloc, etc., et auraient donc pris des buts simplement parce que City aurait bien construit ses actions, soit carrément faire des erreurs, rendre le ballon et tout, parce que tu es mis sous une telle pression que si tu veux chercher à construire, même un minimum, et pas simplement balancer le ballon, ce qui a été le cas, parce que Liverpool n'a pas fait que balancer le ballon, Liverpool a aussi un petit peu tenu le ballon dans le camp adverse en première période, bah ça nécessite vraiment une grande concentration. Et pour ça, Lovren, alors c'est plus facile quand Liverpool joue bas et qu'on lui demande surtout de tenir sa zone, de mettre des coups de tête, et qu'il n'a pas 50
Dans
mètres
le
de
ballon, hein,
profondeur
parce
à gérer.
qu'il met des coups de tête parfois ailleurs.
Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi comme problème. Mais là, pour le coup, il n'a pas dû sortir de ce qu'il savait faire et il l'a très bien fait. Et n'empêche que, enfin, tu dis ça aux Lyonnais, mais même aux gens qui aiment bien Liverpool, aux Reds, dire que Lovren serait à ce niveau-là sur les deux confrontations, c'était pas forcément gagné. Et finalement, je pense qu'il a fait mieux que Matip n'aurait pu le
Ouais,
faire
je
vu la
pense de
tournure
même,
des
ouais.
deux matchs.
Ouais. J'ai juste envie de rebondir sur le calme de Liverpool à 1-0, parce que quand tu vois les deux matchs dont on vient de parler, Real Madrid-Juve et Roma-Barça, il y a une vraie bascule sur le 1-0. Le Real, tu les sens pas bien après le but encaissé hyper vite. La Roma prend vraiment l'ascendant après avoir mis le premier but. D'ailleurs, je crois que les Romains disent Et d'ailleurs,
eux-mêmes que... Oui.
un autre thème des quarts de finale, Flo, ça a été le nombre de buts très rapides dans les matchs aussi.
Oui,
Parce
c'est
que
vrai.
Jesus, deuxième minute, Dzeko, sixième minute, celui de la Juve, je crois que c'est première ou deuxième minute, voire troisième.
Oui, c'est
Ça
vrai,
a
c'est
à
vrai.
chaque fois lancé des matchs très différents de ce à quoi on pouvait s'attendre.
Et c'est vrai que la réaction de Liverpool, pas qui au final est une équipe hyper inexpérimentée à ce niveau de compétition, en quart de finale de Ligue des Champions à l'extérieur, par rapport aux réactions ou à l'absence de réaction du Barça, voire du Real, qui n'a pas réussi à régler les problèmes qu'il a connus, même s'il a eu des occasions grâce à certaines de ses individualités. Moi, j'ai été très impressionné du calme de Liverpool après avoir encaissé un but aussi vite et face à un adversaire qui pourtant continuait à attaquer et à les mettre en difficulté. Et entre cette réaction-là et les ajustements de Klopp en première mi-temps, parce qu'en plus leur système a bougé en première, enfin pas leur système, mais les joueurs ont changé de place en première mi-temps.
Défensivement, il jouait à 10, hein.
Oui, voilà, parce
Parce que
que
Salah était pas en état de courir, donc.
Salah ne pouvait pas. Mais voilà, il y a eu des ajustements pour essayer de régler le problème causé par Sané et Silva, qui combinaient comme des fous sur le côté gauche. Parce qu'en plus, il y avait
Beaucoup mieux
eu,
qu'à l'aller, ouais.
voilà, il y avait l'ajout de Sterling qui ajoutait de l'incertitude dans le cœur du jeu, donc ça leur facilitait un peu la tâche pour combiner. Et pendant toute la première mi-temps, j'ai l'impression que la mission de Klopp, ça a été, bon, comment est-ce que je règle ce problème? Alors, il avait en effet sorti Salah, il l'a mis en pointe. Il a mis Mané à droite, puis ensuite en cours de première mi-temps, il a aussi changé ses milieux de terrain pour mettre Milner, qui a peut-être plus d'expérience que Oxlade pour ce genre de situation. Il a mis Milner axe droit le temps de quelques minutes, je crois que c'est à peu près pour finir la mi-temps. Après, à la pause, il est revenu dans sa situation initiale. Mais voilà, la réaction de Liverpool après avoir encaissé le premier but aussi vite, personnellement, j'ai été assez impressionné, et surtout quand je la mets en parallèle avec l'absence de réaction du Barça, ou un Real qui n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la partie à 0-1, quoi.
Et un truc qui a été très bien réussi par Liverpool, Christophe, parce que, alors, il y a un point commun et à la fois une différence entre City et le Real, par exemple, c'est qu'ils arrivent à acculer l'adversaire sur leur but. Là où le Real va centrer dans les airs et répéter des centres à destination de Ronaldo, le City va plutôt chercher un appel dans le dos, donc notamment de David Silva ou de Sterling, puis un centre en retrait pour les joueurs qui arrivent lancés dans la surface. Et là-dessus, il y a eu un tel retour des milieux de terrain de Liverpool pour aider Lovren et Van Dijk que tu avais toujours l'impression qu'il y avait une jambe au dernier moment pour sauver un centre en retrait, alors que il y a eu des temps forts assez exceptionnels de la part de City. Moi, pendant 2-3 minutes, bon, on sait que j'ai une certaine tendresse pour Liverpool, mais j'étais très effrayé par la domination de City qui enchaînait 2-3 centres répétés, un côté droit, un côté gauche, ça revenait côté droit. Ça me rappelait un peu le Bayern qui va mener 2-0 à Turin là, sur un match exceptionnel, le Bayern de Guardiola qui se fait rattraper finalement à 2-2. Pareil, avec 45 minutes énormes, et Liverpool a laissé passer l'orage en défendant très bien sur un espace hyper resserré, et ça aussi, ça a été étonnant.
Et pour moi, c'est l'un des enseignements de ces quarts de finale retour. C'est que, c'est tout bête, hein, mais l'équipe qui met le plus d'intensité et qui est le plus capable de faire des efforts intenses très courts a plus de chances de s'en sortir et de gagner. Et là, tu as un parallèle assez clair entre les équipes qui courent le plus, même sur l'ensemble du match, et le résultat. Mais au-delà de ça, l'intensité, c'est pas courir n'importe comment, c'est aussi courir dans les bonnes zones. Et je veux dire, Milner, par exemple, tu dis oui, effectivement, enfin, il est intense parce que il va toujours se battre, il va se jeter,
Il va mettre des
mais c'est
boîtes.
cadré, quoi. C'est quand il tend la jambe, il tend pas la jambe n'importe comment, parce que si tu mords à toutes les feintes et que
Sauf
tu vas...
sur le 2-0. Sauf,
Ouais.
enfin.
Mais tu vois, si t'es tout le temps à fond mais que tu fais un peu n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt. Et là, pour le coup, ça peut rappeler à certains égards. Enfin, c'est l'un des grands symboles de ça. C'était l'Inter de Mourinho avec bon, ok, t'avais Samuel et Lucio qui mettaient des coups de coude à tout le monde dès que t'approchais de leur zone. Mais n'empêche que t'avais l'impression que ça se jetait tout le temps, alors que pas forcément. C'est simplement que ça se jetait au bon moment et ça savait toujours mettre le pied sur la bonne trajectoire ou autre. Et en fait, ça mettait l'intensité, mais ça cadrait l'intensité, quoi. Pareil, ça revenait défendre, mais ça revenait pas défendre n'importe comment. C'était si tu as 8 adversaires, bah, on revient à 10. Si tu en as que 5, on va pas revenir à 10 et on va laisser 3-4 joueurs devant pour pouvoir aérer un petit peu le jeu. Donc c'est vrai que tout est à fond, mais c'est pas n'importe quoi. Et je veux dire, le fait de tout faire à fond et de faire n'importe quoi, je le disais tout à l'heure vite fait, c'est Alexandro par exemple qui monte pas pour mettre Ronaldo hors jeu hier avant l'action du penalty. C'est à partir du moment où tu cours tout le match, etc., bah, tu peux rater un signal déclencheur qui te dit bah, on va hors jeu, ou tu peux oublier de faire une compensation, ou alors tu vas plus avoir assez d'énergie pour pouvoir redéplacer le bloc de l'autre côté. Alors ça pose une question, c'est un peu tabou et on n'a aucune réponse ou autre, mais c'est la question voilà du dopage, de la préparation physique, parce que sur certains trucs, tu as l'impression vraiment que c'est la dimension physique qui fait toute la différence. N'empêche que le physique seul n'a pas d'intérêt, et là au moins Liverpool, mais pas que Liverpool, ont réussi à bien doser leur intensité sur les bonnes phases de pressing, etc. Et c'était pas juste on court n'importe où pendant 90 minutes.
Alors, on a beaucoup parlé de Liverpool, Florent. Il y a eu aussi 45 grosses minutes de City avec un 3-4-3 que Guardiola a mis en place plus qu'à l'aller où c'était un peu une espèce de 3 asymétrique derrière où il y avait Walker plus haut que la porte et on sentait que City avait le cul un peu entre deux chaises. Là, il est parti sur un truc beaucoup plus offensif et il y a un changement tactique en deuxième période enfin, que tu peux comprendre mais qui finalement a des effets inverses et des effets pervers, c'est de reculer Fernandinho. De mettre De Bruyne plus seul au milieu en partant peut-être de l'idée que tu auras la possession du ballon et que tu as besoin que de lui et pas d'un homme en plus et que tu vas mettre plus de monde devant. Mais à partir de là, Liverpool a fait un truc qui a très bien fonctionné, et moi je l'ai vu plusieurs fois dans les 10 premières minutes de la deuxième période, c'est revenir jusqu'à Karius. City avance parce que City défend toujours en avançant. Et à partir de là, tu as Karius qui envoie un long ballon au milieu du terrain. Et vu que Fernandinho n'est plus là parce qu'il est plus proche de Otamendi, bah tu as De Bruyne qui est entouré de Oxlade, de Wijnaldum, de Milner. Et à partir de là, tu as perdu beaucoup de ballons et donné des temps de possession à Liverpool. Et c'est en respirant un peu que Liverpool a réussi finalement à avoir des temps forts parce que jusque-là, ils étaient en apnée.
Ouais, t'as bien résumé. Moi, ce changement, je ne l'ai pas vraiment compris. Alors, il y a une question que je me suis posée aussi. Est-ce que le fait que Guardiola soit en tribune, ça a pas
Ah, c'est
compliqué
sûr.
les
Moi,
choses aussi
je me
pour...
suis dit, c'est sûr, parce qu'il aurait, enfin, je sais pas, il aurait peut-être eu plus d'impact. Et Arteta était assis dès le début, tu vois, là où Guardiola, enfin, je sais pas, c'est.
Il aurait peut-être pu ajuster ou voir essayer de voir rapidement. peut-être que la consigne est pas passée, est pas parfaitement passée à la mi-temps. Il aurait peut-être pu mieux ajuster les choses après la pause. Mais c'est vrai que ce changement-là, je ne l'ai pas compris. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait que 1-0 à la pause, il y avait quand même
l'écart, ouais.
Il y avait une domination, il y avait je disais que Liverpool arrivait à régler, enfin Klopp avait réussi à régler les problèmes, mais c'était que défensif quoi, ils avaient eu beaucoup de mal à sortir, juste à la fin de la première mi-temps avec l'occasion d'Oxlade. Et c'est vrai que ce changement-là, je l'ai pas compris et Liverpool a pas tardé à le sanctionner. Il y a un joueur qui est monté en puissance aussi en début de deuxième mi-temps, c'est Wijnaldum. Qui a fait 2-3 sorties de balles assez tout en puissance là,
en cassant des lignes, ouais, notamment.
Voilà. Et alors qu'il avait été très absent quand même sur les phases de possession des Reds en première période. Et voilà, après il y a ce but qui arrive très vite et derrière le match est terminé.
C'est dommage, Christophe, parce qu'on a vu aussi, on l'avait dit, hein, on a cette capacité de Guardiola à tout changer d'un match à l'autre et à trouver les failles. Et sur 45 minutes, ça a été un récital et qui sera oublié parce que City sort et City sort une fois de plus en quart de finale et de manière un peu triste parce qu'ils n'ont pas été à leur niveau sur les 180 minutes. Mais on a vu quand même la force de Guardiola là-dessus sur la préparation de match.
Ouais, le seul regret, c'est là où je suis enthousiaste, mais moins que je l'étais par exemple face à l'Atlético où le Bayern est éliminé, mais où tu sens que le plan de jeu est déséquilibré vers l'avant, mais il garde quand même un certain équilibre pour être viable sur 90 minutes. Là, c'est vrai qu'en plus, avec ce que tu as dit, les petits ajustements de positionnement, etc., je ne sais pas si dans le volume de course et dans la prise de risque total, c'était viable sur 90 minutes, au-delà même du but pris. Je ne sais pas si tu aurais réussi à te créer suffisamment d'occasions et si tu n'aurais pas, comme la Juve, baissé le pied à la 60e minute. Après, c'est vrai que dans la lecture des failles de Liverpool, c'était quand même pas mal.
On avait parlé d'animation des couloirs qui devaient être changés après l'aller et il a complètement redonné du peps à ces couloirs-là.
Et la présence à l'intérieur aussi, en ajoutant Sterling en soutien de Gabriel Jesus.
Du coup, c'est un petit regret qu'il ne l'ait pas fait au match aller, s'il avait fait ça sans forcément être aussi déséquilibré. Après, est-ce que tu n'aurais quand même pas eu les 20 minutes où tu souffres et où tu t'offres des buts à Liverpool? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, là, sur le coup, la lecture du match était bonne. Et de toute façon, surtout contre Liverpool, tu ne peux pas te dire bon, on part tranquille et puis on essaie d'en mettre un et on voit. Tu étais obligé de jouer ton va-tout et d'essayer de basculer à la mi-temps à 2-0 quoi. Je pense que c'était vraiment l'idée de basculer à 2-0 et puis ensuite peut-être qu'on essaye d'avoir un petit peu plus de contrôle, on presse un petit peu moins, on calme un petit peu le tempo et puis on voit quand est-ce qu'on met le troisième. Et je pense que c'est aussi pour ça que Guardiola pète un plomb quand il voit que le deuxième but est refusé. C'est que je pense qu'il sait qu'en tournant 1-0 à la mi-temps avec les efforts qui ont été fournis, ça se complique sérieusement quoi.
Bah alors une équipe qui avait besoin de basculer à 2-0 aussi, c'était Séville en déplacement à Munich. Séville qui avait été plutôt enthousiasmant au match aller. Christophe qui là sur le coup, on a parlé de match à intensité, de match serré, de match disputé avec des scénarios qui étaient renversés, ça a été le match où ça a été le moins le cas à l'inverse des trois autres. Et est-ce que tu pouvais faire un petit résumé rapide de ce match là qui a terminé à 0-0 et qui restera finalement le match anecdotique de ces quarts de finale retour?
Ouais, je vais faire un petit vrac sans que tu aies besoin de me relancer. Je pense en plus que je suis le seul à avoir vu ce match-là. Je l'ai vu en différé, je regrette un petit peu.
Je l'ai vu à moitié, quelques occasions de Séville, et puis après ça s'est éteint quand même.
Bah en fait, pas d'intensité ou très peu d'intensité. Deux équipes Séville qui refuse de se livrer, qui refuse aussi de prendre des risques à la relance, qui est d'habitude l'ADN de cette équipe. Et c'est aussi pour ça que j'avais pronostiqué qu'il y aurait pas mal de buts, parce que Séville veut relancer coûte que coûte. Bah là, pas du tout. Séville n'hésitait pas à rendre le ballon, ce qui était un petit peu bizarre. Et ok, tu as Nzonzi qui peut gagner les duels aériens, mais là, tu jouais vraiment très rapidement en profondeur vers Ben Yedder ou autre. Mais du coup, tu perdais un petit peu ce qui te permet d'avoir des occasions, à savoir de mettre en danger le bloc adverse. Et en gros, le Bayern avait mis vraiment beaucoup de joueurs offensifs. C'était quand même Müller, Robben, Rames, Lewandowski, Ribéry en même temps sur le terrain. Ce qui fait qu'en gros, tu avais quasiment tout le temps le seul Ravi Martinez vraiment au milieu, et tous les autres, à part Rames qui redescendait pour être un petit peu un meneur de jeu libre sur tout le terrain, tous les autres étaient là pour partir à toute vitesse en contre-attaque. Et en gros, la seule stratégie du Bayern, entre guillemets, c'était de se dire, bon, quand Séville a la balle, on essaye de presser, si le pressing marche pas, bah, tout le monde se replie. On est en 4-5-1. Et puis dès qu'on récupère la balle, et ben ça part à toute vitesse avec Robben Ribéry sur les côtés, Müller, Rames, Lewandowski, Kimmich qui va faire des centres. Donc ça se projetait à toute vitesse. Le Bayern a pas mal d'occasions sur les transitions, mais manque de réalisme. Mais sinon, avec le ballon, vu que tu n'avais pas, à part Rames, tu n'avais pas vraiment de joueurs capables de le tenir, c'était uniquement des différences individuelles avec les ailiers, ben avec le ballon, tu n'as pas fait grand-chose. Et à l'inverse, Séville. Donc a eu peur de relancer et puis quand le Bayern s'est replié et joué en bloc bas, bah Séville n'a pas voulu mettre trop de joueurs devant le ballon, a pas voulu prendre trop de risques et finalement ça faisait une passe à 10 dans son camp. Donc tu as eu beaucoup de phases de passe à 10, soit de pressing, puis le pressing s'arrête et puis tu as une équipe qui fait une passe à 10 et puis ensuite Séville va chercher la solution sur des renversements de jeu puis centre. Notamment de Jesus Navas. Et dans les mêmes zones, le Bayern va faire renversement et va chercher à faire la différence par un dribble de Robben ou de Ribéry. Donc c'était assez terne. Séville aurait pu prendre plus de risques. Et le Bayern, à partir du moment où tu ne mets pas Thiago ou autre dans l'entrejeu, bah forcément tu perds en qualité de passe et tu vas uniquement faire ta différence sur des inspirations individuelles et des transitions. Et vu que Séville a plus pensé à ne pas prendre de but. Pas prendre de but en contre ou alors pas s'exposer à la relance, bah, du coup ça a pas ouvert la porte pour que le match se débride. Il y a eu des occasions, hein, mais ça, globalement c'était quand même assez morne. Ça termine à 1 d'expected goals pour le Bayern et 0,52 pour Séville, qui a une barre transversale, qui a quelques occasions, mais à chaque fois c'est des occasions, tu vois, sur des coups de pied arrêtés ou alors sur un
Ouais, là,
centre, mais
donc
tu as quand même la
là,
défense qui est placée, donc c'est pas c'était
là, ouais,
demi-occasion quoi.
l'exécution technique était meilleure que la position de frappe. C'est un peu le.
Ouais, c'est ça. Et sachant qu'en plus, Séville n'a pas d'énormes qualités individuelles pour faire la différence par le dribble, à part Correa qui en plus était bien pris sur ce match-là, sinon c'est plutôt par la passe en faisant des
Et
décalages.
qui a été expulsé après un magnifique chassé sur Javi Martinez.
Et c'est vrai que c'est aussi l'un des thèmes, pour finir, c'est beaucoup de fautes tactiques et beaucoup de violence à la perte de balles pour éviter de prendre des transitions. On en a parlé côté de la Roma où tu as eu quelques cartons jaunes. À la Juve, à la fin, tout le monde avait pris son jaune quasiment. Et là, Séville, pareil, tu avais quand même assez facilement le recours à la faute tactique qui sert uniquement à couper l'action adverse.
Celle de Correa servait surtout à couper l'adversaire, mais
Oui, à couper une jambe.
il a été logiquement expulsé pour ça. Bon, en tout cas, ça aurait été des très beaux quarts de finale de Ligue des Champions. On reviendra sur cette compétition dès qu'on abordera les demi-finales, ça va vite arriver. Mais passons désormais à notre championnat national, Flo, la Ligue 1 qui continue, qu'on n'a pas oublié. On en a beaucoup parlé lors du podcast précédent, et là, tu voulais nous parler un peu de. À la fois le match qui concerne la course à l'Europe, ça va être l'occasion de placer nos petits paris PMU, d'essayer d'être un peu plus pertinent que la dernière fois, parce qu'on a fait un 0 sur 4, je le rappelle.
Oui.
Vous êtes coupable, Florent et Christophe.
Oui, en attendant, tu prends pas trop de risques pour l'instant, hein,
Voilà,
puisque tu
c'est.
animes.
Voilà.
Donc,
Exactement. Mais voilà, on a parlé de. Alors, on va commencer par Rennes, tiens, parce qu'on a parlé de Rennes lors du dernier podcast.
ouais.
Alors, explique-nous ce que tu as vu de Rennes et pourquoi tu vois des buts, des doublés, voire des attaquants rennais.
Bah déjà, Rennes joue face à Metz. Donc
Oui, on va y
déjà,
avoir des buts.
ça, ouais, on peut imaginer qu'il y ait des buts, hein, vu ce qui se passe du côté de Metz, et que on va dire que ça sans doute, on croit sans doute de moins en moins au maintien du côté de Metz. Et côté Rennais, bah, on en a parlé lors du podcast précédent. Je vous conseille de l'écouter, en tout cas sur la partie Ligue 1, hein, voilà, n'écoutez plus
Oui.
ce qu'on a dit sur la Ligue des Champions. Et c'est vrai que sur la partie Ligue 1, on avait parlé de Rennes et on avait dit que c'est une équipe qui, face à Monaco et à Nice, a montré de belles choses dans les deux premiers tiers du terrain pour construire ses actions, pour remonter le ballon correctement avec Kasri, avec André, avec Persic notamment au milieu. Et du coup, je me dis que face à Metz, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour eux de faire fructifier ça et de prendre des points, vu qu'ils restent au final sur un nul à Nice et un nul à Monaco. Donc c'est le moment de confirmer, on va dire.
Dans le dernier tiers.
Voilà, c'est le moment de confirmer dans le dernier tiers, d'autant plus face à un adversaire qui manque de défenseurs centraux de grande qualité qui seraient capables de compenser des faiblesses du reste du bloc un peu plus haut. Donc pourquoi ne pas tenter les doublés de joueurs comme Kasri ou Diafra Sakho? Alors Kasri normalement devrait jouer, il a repris l'entraînement en milieu de semaine, donc je pense que ça devrait être bon pour lui. Sakho avait joué face à Nice, et en plus les cotes sont plutôt sympathiques pour ces deux-là, vu que Kasri est à 6,50 et Sakho à 8,50.
Okay, donc le doublé de Kasri 6,50, le doublé de Sakho 8,50.
Voilà, c'est ce que vous choisissez. Mais oui, après, si vous voulez l'accompagner d'une victoire de Rennes avec un certain nombre de buts d'écart, vous pouvez tenter, mais je pense que ouais, les buteurs, ce n'est pas une mauvaise idée sur ce match-là.
Autre pari, le match de Dijon en déplacement à Nantes. Alors, ouais. Deux équipes qui sont dans le ventre mou du championnat, mais une équipe qui est dans une bien meilleure forme, c'est Dijon, tandis que Nantes, ça commence à péricliter sur cette deuxième partie de saison. Ça ne marque plus, bon, ça ne marquait déjà pas beaucoup, mais ça, c'est une deuxième partie très tranquille, alors que Dijon est toujours aussi flamboyant.
Ouais, alors Nantes, ce match-là, c'est un peu le coup de poker, parce que c'est plus la cote qui m'a intéressé que la garantie d'un succès de Dijon à Nantes. Mais quand je vois la cote à 5,20 et que je vois ensuite que Nantes n'a gagné qu'un match à domicile en 2018, c'était 1-0 face à 3, et on a perdu 5 sur 7 matchs au total, et qu'en face, Dijon est sur 4 matchs sans défaite à l'extérieur et a toujours marqué un but sur ses 6 derniers matchs, je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose là-bas, d'autant plus que Nantes a du mal à attaquer. Et le dernier point, c'est aussi que Dijon, malgré tout, sur sa phase retour, a joué, on va dire, 10 matchs face aux équipes normales de Ligue 1, c'est-à-dire ils ont joué contre Paris, Marseille et Monaco, ils ont perdu ces 3 matchs-là. Mais face aux autres équipes de Ligue 1, c'est-à-dire à partir de Rennes et jusqu'en bas du classement, jusqu'à Metz, ils ont joué 10 matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était au mois de janvier face à Strasbourg. Depuis, ils sont invaincus. Donc je me dis que Dijon, si on voit les deux dynamiques, je me dis que la cote à 5,20, elle peut se tenter. Si vous êtes moins joueur, le match nul est à 3,70, ça peut se tenter aussi. Mais Dijon est une équipe qui joue quand même bien au ballon, qui sait attaquer et
qui marque souvent des buts,
donc ils ont peut-être la grosse cote en fait du week-end, la bonne affaire, elle est peut-être sur ce match-là.
Passons à Christophe qui va nous parler de son club fétiche, le LOSC. Le LOSC qui reçoit Guingamp. Le LOSC qui reçoit Guingamp avec un certain Hervé Coffi dans les buts. Si on part sur cette idée-là, qu'est-ce que tu nous proposes pour le déplacement de Guingamp-Lille? Guingamp qui est en bonne forme aussi, et notamment depuis le recrutement de Grenier qui marque des buts et qui joue au foot, c'est encore plus étonnant.
Alors, pour vous en magasin, j'ai la victoire de Guingamp en deuxième période face à Lille. Donc, même si Lille gagnait 2-1, admettons, si Guingamp marque le seul but de la deuxième période, ça serait, le pari passerait côté à 3-10. Ce qui me semble très bien payé pour plein de raisons. Déjà parce que Lille a l'habitude de s'écrouler en seconde période. Alors tu as à la fois les débuts et les fins de match qui sont toujours compliqués. Mais je veux dire, même par exemple contre Montpellier sur le match avec l'envahissement de terrain, il y a un partout, mais tu concèdes l'égalisation en seconde période. Et globalement, le LOSC manque un peu de jus, manque un peu de caractère pour vraiment tenir et de concentration pour tenir 90 minutes. Et en plus, au-delà de ça, tu as parlé bien sûr de la bonne forme de Guingamp en ce moment. Mais alors, il y a Hervé Coffi dans le but lillois, qui pour le coup est plutôt bon en sélection, mais là, il a été titularisé à la place de Maignan. Et il donne un but à Camano sur une erreur assez incompréhensible. Tu as aussi Soumaro qui ne sera pas là en défense centrale. Le capitaine Amadou qui ne sera pas là au milieu. Et Thiago Mendes, l'autre milieu, mais qui est parfois délocalisé à droite à gauche, qui lui est suspendu. Donc c'est-à-dire que tu auras une équipe lilloise encore très jeune, avec un gardien qui est reconduit, mais dont tu ne sais pas exactement le vrai niveau finalement en Ligue 1, ni l'état de confiance. Donc si tu mets ça avec en plus la force de frappe guingampaise, je vois bien ça passer. Limite, pour moi, alors c'est peut-être un petit peu dur avec le LOSC, mais limite, je verrais comme inconvénient le fait que Guingamp puisse mener par exemple 2-0 à la pause et ne marque pas en seconde. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que je le verrais, plutôt qu'une victoire lilloise qui du coup flinguerait un peu le pari. Parce que là, en ce moment, c'est quand même très compliqué. J'en ai parlé la semaine dernière, le ressort de Christophe Galtier, c'est pas forcément d'ajuster les choses sur le plan du jeu, mais c'est de changer les hommes. Et le problème, c'est qu'il a un réservoir humain assez limité qui le pousse à intégrer des Mendil ou des Dabila dans le 11, qui sont des joueurs qui n'ont pas encore prouvé au plus haut niveau. Donc j'ai un peu peur pour Lille, Et je pense que même si, par exemple, tu arrivais avec un match nul, je pense que tu terminerais moins fort que tu débuterais. Et que le côté. Tu vois, j'imagine bien Galtier remonter les mecs dans le vestiaire avant le match qui commence à fond. Mais je suis pas sûr que ça soit viable forcément sur 90 minutes, hein, dans l'intensité. Et comme je le disais, dans la concentration pour pas faire de bêtises.
Autre rencontre, autre code dont tu veux nous parler, c'est Lyon face à Amiens. Et là, tu nous proposes un pari que tu vas devoir préciser et bien expliquer, puisque les gens qui ne sont pas forcément rompus au monde du pari ne vont pas te comprendre. Mais vas-y, dis-nous ce que va faire Lyon contre Amiens. Et puis, sachant qu'on n'a jamais bon en preview, il va se passer complètement l'inverse.
Ouais, en fait, je pense qu'on a noué le partenariat avec PMU pour enrichir PMU en donnant des mauvais conseils à tout le monde. Alors, là, c'est aussi un petit peu pour la cote comme Florent. Autant Guingamp, j'y crois vraiment. Autant la Lyon, c'est un petit pari, quoi, un petit coup de bluff. Alors, ça serait une victoire de Lyon sur le score de 2-1, 3-1 ou 4-1. Donc, c'est-à-dire si l'un de ces trois scores est exact, la cote est à 3,45. Ce qui voudrait dire que Lyon gagne, mais concède quand même un but. Si tu regardes les derniers matchs d'Amiens, au-delà du fait que les résultats soient plutôt bons, Amiens marque quasiment à chaque match. Il y a eu la victoire 3-0 contre Caen, mais il y a eu 1-0 à Lille et ensuite deux matchs nuls un partout contre Dijon et contre Troyes.
Sur quatre matchs sans défaite, les Amiénois.
Donc c'est-à-dire que le côté. Enfin, tu vois, Amiens, c'était d'abord on construit par la défense, on est un promu, on est solide. Mais là, tu as Moussa Konaté, tu as Gaël Kakuta, tu sens que ça commence à se libérer offensivement. Et le fait d'être quasiment maintenu, quoi. Amiens est 13e avec 37 points, a priori, c'est plutôt bon, surtout vu le rythme de Troyes et Lille. Je vois bien Amiens essayer de jouer, de se dire, bon, tant pis, on a rien à perdre, mais bon, plutôt que de faire uniquement défendre, peut-être essayer de se faire plaisir. De l'autre côté, Lyon ne peut pas se permettre de perdre des points, et vu la dynamique, j'imagine quand même Lyon gagner. Après, il y a un truc qui est tout bête, mais c'est la jurisprudence match à 17h. C'est vrai que Lyon a quand même des problèmes de collation et des problèmes de comment gérer le rythme de l'après-midi et de ta journée pour arriver en forme à 17h. Et les stats lyonnaises sur les matchs comme ça en fin d'après-midi sont assez compliquées.
En gros, ce serait un mauvais début de match de l'OL qui encaisse un but et qui ensuite se rattrape parce que la digestion est terminée.
Voilà, c'est ça. Donc,
après, Metz, c'était à 17h, non? Dimanche dernier.
Ouais, mais aussi, on fait pas de. C'était Metz. Voilà. T'as une contre-jurisprudence, en fait. Les deux s'annulent. Et donc, la jurisprudence lanterne rouge. Mais donc, voilà, sachant que de 2-1 à 4-1, ça laisse quand même une petite variété de scores. Et tu peux à la fois avoir le scénario où Lyon souffre jusqu'au bout et celui où Depay fait encore trois passes décisives.
Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ça fera des paris. On espère qu'il y en a un qui va passer.
Je regrette parce que sur la semaine précédente, enfin là, sur les matchs de milieu de semaine, Rames a failli mettre un coup franc en lucarne, c'est pas passé loin, donc j'aurais sauvé l'honneur.
Mais c'est quand même le seul qui est pas passé loin parce que les autres sont complètement foireux. Il y en a pas un qui a été. Enfin, celui de sur le Real Juve là, de Flo était invalidé après 2 minutes de jeu.
Ouais, le doublé de Ronaldo, moins loin.
C'est pour ça que là je fais un truc à trois possibilités, comme ça ça te laisse dans le match et ça te permet de vibrer jusqu'au bout.
C'est vrai, c'est ce que je faisais quand à l'époque où je pariais, j'essayais de trouver les matchs les plus loin dans le week-end. Comme ça t'as encore du temps avant de déprimer parce que t'as perdu. Voilà, écoutez, bah messieurs, on reparlera la semaine prochaine de Ligue 1 cette fois-ci, puisque les Coupes d'Europe seront en pause. On reparlera peut-être de l'OM et de Leipzig, puisque le match n'est pas encore disputé, ni au moment où on enregistre, ni au moment où ce sera publié. En espérant un match intéressant, et puis on revient rapidement, vivement la Coupe du Monde aussi. On vous rappelle qu'avec le partenariat avec PMU, on va mettre en place une quasi quotidienne pour la Coupe du Monde, ce qui nous permettra de dire beaucoup de choses. On rappelle qu'on est aussi sur Deezer depuis peu, depuis aujourd'hui, je crois, Florent, il me semble.
Ouais, c'est ça, depuis aujourd'hui, on va dire. Ah. Et n'oubliez pas de laisser des notes ou des étoiles ou des commentaires sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Parce que ça permet au podcast de remonter dans les classements et d'être plus visible. Donc voilà, si vous voulez nous donner un coup de main, c'est pas mal ça.
Ça dure de plus en plus d'auditeurs. Pareil, si vous connaissez quelqu'un qui vous énerve lors de vos discussions foot, bah, il pourra s'énerver contre nous aussi. Et puis vous pourrez discuter avec lui. On espère que ça dure de plus en plus de gens et que ça restera un podcast que les gens apprécient et suivent avec amitié sportive même, j'ai envie de dire ça.
C'était la chute que j'allais faire.
Ça fait un an qu'on essaye de le placer. Voilà, merci à vous Florent et Christophe d'avoir été là. Christophe, tu dois partir travailler vraiment, je crois, bientôt. Donc on va te libérer. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao.
Salut.
Cordialement.